l'ami et le stylo. Je n'ai même plus les mots, je ne sais ce qu'est l'amour. Depuis la vie m'a rendu fou, je fais que flirter avec la mort. Docteur, j'ai peur de descendre aux enfers, de me faire insulter par les anges et d'être châtié par Lucifer. Y'a trop de gens que j'ai haï, une petite pétasse qui m'a trahi. Docteur, je vous en supplie, je veux une place au paradis. Je l'ai appris hier, docteur Exo, c'est ma prière. Ma femme a préféré me quitter en se noyant dans une rivière. Vous voyez bien que la galère m'a mis les deux genoux à terre. Docteur, pardonnez-moi, j'ai décidé de me foutre en l'air.
Comment s'en sortir quand la vie n'a pas d'issue? Voulant repartir car le monde nous a déçus. La terre tourne, tous bercés par la matrice. Un stylo, une feuille pour recoudre mes cicatrices.
Mon armature, c'est ma musique. Jeune alarmiste, missionnaire d'un mouvement séparatiste. Je m'applique, dehors ça tire, mine satirique. Je suis pas le centre du monde mais son satellite. Je m'abrite sous une belle étoile car leur idéal est satanique. Mon texte me sert d'aérosol. Mon cœur est obscur, mon stylo est devenu spéléologue. Ma vie n'est pas rythmée par le camion de l'horloge. J'aime pas qu'un temps s'accroche. La terre est notre mère, l'urbanisation est un parricide. Comment rester placide? Ma réflexion n'a pas le potentiel de Will Antide.
Salut à tous, bienvenue en direct donc à Radio Galère pour notre émission mensuelle en quête de cinéma. Donc en présence de, à côté de moi, Lo et toute l'équipe de réalisateurs, ou non, plutôt adjoint réalisateur ou acteur, etc. Il y a Nawir qui est avec nous, qui est notre invité avec toute sa bande. Nawir qui est reçu ici avec nous parce qu'il a réalisé un film, ou un film en tous les cas en deux volets, et donc on le... Ouais, alors attends, Nawir, tu vas pouvoir éventuellement t'exprimer en direct, là, comme ça, si tu veux. Vas-y.
Ben, bonsoir à tous. Merci à vous de nous avoir invités.
Pas de soucis.
Et nous sommes venus avec l'équipe du film, composée de Véro.
Bonjour.
Qui est chargée de la direction d'acteur et qui est conseillère artistique. Il y a Laetitia.
Salut.
Qui est comédienne et qui est chargée de communication.
Laetitia, tu parles bien dans le micro, comme tout le monde.
Oui, ok.
Ouais, je disais qu'il est comédienne et chargée de communication. Il y a Nadj.
Hello, hello. C'est moi.
Qui est également comédien. Qui est également mon frère.
Le piston ne marche pas, bien sûr.
Et il y a un collègue à nous qui nous a soutenus durant toute l'aventure, qui ne veut point parler au micro, puisqu'il est très très timide.
Il est timide.
Et voilà.
Ok, donc bon, bah écoute, c'est bien qu'il soit là quand même.
Ah oui, 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 il soutient jusqu'au bout.
Bon, c'est cool. Bah, on est super content que vous soyez là avec nous.
Ah, merci
pour l'invite.
Hein. Et donc voilà, bon, on voulait vous avoir donc dans l'émission Enquête de cinéma, parce que comme son nom l'indique, on mène une petite enquête, ou plutôt une recherche. Et ce qui est intéressant pour nous, bah, c'est d'explorer le cinéma dans toutes ses formes. Bon, alors Lo, est-ce que tu veux commencer ce début d'émission par un lancement de fusée sur le l'expérience Nawir?
J'essaie de... Tu veux dire que je lance un son ou...
Tu lances une question.
Une question, une présentation.
Oui, wow. Ça commence.
Vous commencez fort alors. Ben ouais, écoute, moi j'ai rencontré Nawir... je ne sais plus il y a combien de temps,
4 ans,
et puis voilà, on a parlé de cinéma. Il voulait faire des films, il avait une très belle énergie, une belle envie, et puis voilà, il a fait deux films en 4 ans.
Ouais, c'est ça, pratiquement.
Voilà, le Toit du Monde, les deux portent le même titre.
Ouais, le Toit du Monde, volume, volet 1 et 2.
Voilà, volet 1 et 2. Et donc, ben, moi je les ai regardés, j'ai beaucoup apprécié. Allez regarder, j'ai trouvé beaucoup de différences entre les deux. Et puis, ben, moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est comment s'est construite l'équipe, parce que là, tu viens de présenter l'équipe. Et ben, comment elle s'est construite, cette équipe?
Ben, c'est une question de rencontre. Il y avait des rencontres qui se sont faites depuis 2009 et des personnes que j'ai connues bien avant, comme Letty, que j'ai connue au lycée. On s'est rencontrés en première, c'est ça, ou au second?
Ouais.
En première.
Seconde. C'est juste qu'on a été dans la même classe en première.
C'est ça, c'est bien ça.
Ah, t'as oublié, c'est pas bien ça.
Ah oui, j'ai Alzheimer, et désolé.
Je le pardonnerai quand il y aura le chèque.
Et Véro, que j'ai rencontré en 2009, parce que j'avais l'idée d'un film, et j'ai rencontré une amie qui m'a dit, bon, je connais une personne qui a déjà l'expérience de film, qui a déjà travaillé dans le théâtre, et si tu veux, je te la présente, et je suis parti la voir, je lui ai soumis mon idée, elle a tout de suite accroché, et depuis, nous sommes partis à l'aventure. Et il y a le comédien qui est également mon frère, que j'ai connu dès sa naissance, puisque je l'ai élevé. Je l'ai élevé, oui, oui. Il m'appelle papa en aparté. Hein.
Oui, c'est en début de mois quand t'as de l'argent.
Ouais. Et ça fait que voilà, les comédiens, bon, j'avais l'idée, j'avais les personnages qui étaient écrits sur des feuilles volantes.
Et les comédiens, ils ont. T'avais déjà l'idée des personnages avant ?
Oui, oui, j'avais.
Mais ce qui fait que tu les as cherchés en fonction de l'idée que t'avais ou t'es aussi parti de ce qui existait ?
Ben en fait, moi, je suis parti de ce qui existait. J'avais une petite feuille où j'avais 6 personnages, j'avais les aspects psychologiques. Et je me suis dit, bon, allez, pour trouver des acteurs, j'ai pioché autour de moi. J'avais une première équipe, j'avais des collègues de fac. Après, il y a des comédiens qui sont partis, bon, parce que voilà, avec les disponibilités de chacun. Et des collègues comme mon frère qui se sont proposés, Letty qui s'est proposé dès qu'on se croisait à la fac, qui me disait, bon, si tu fais un film, tu as besoin de quoi que ce soit, que ce soit dans la musique, dans tout, je suis là. Et je leur ai passé les personnages et ils ont... Mais ces personnages, ils les ressemblaient quand même. Et ça fait que durant l'aventure...
T'es en train de dire que je suis lesbienne. Non,
mais attends. Non.
Je suis pas un dealer, là, oui. Hein. Non. Je suis un brave gars.
Mais en fait, au fur et à mesure de l'aventure, parce que j'avais pas les scénarios déjà terminés, j'écrivais après en fonction des comédiens. Je me disais, bon, mon frère, je sais comment il est, comment il parle surtout. Parce que j'avais surtout un gros problème pour écrire les dialogues. Dans le premier volet, les premiers jets, j'écrivais comme si c'était une pièce de théâtre, quoi. Avec un langage relativement soutenu, ça faisait pas parler vrai. Et quand je leur ai passé le texte, lors des tournages, je me disais, mais Nawir, on parle pas comme ça dans la vraie vie. Ça fait que, au fur et à mesure, je devais travailler mes textes pour qu'ils soient bien... pour qu'ils soient potables pour les comédiens, pour qu'ils soient plus à l'aise. Et en fonction de au fur et à mesure de l'aventure, je me suis dit, bon, Letty parle comme si elle pourrait dire tel mot. J'écrivais en fonction de Letty, en pensant à son personnage et vice-versa. Aidez-moi un petit peu, là, je commence
et
un peu à bugger.
Non, mais c'est vrai c'est que mais aussi, enfin, moi, je vois aussi au niveau, c'est vrai que quand on avait les textes, c'était plus... plus lit, on avait du mal, et puis Nawir nous a tout de suite mis à l'aise en nous disant ben, c'est des textes que j'ai écrits justement comme je le pense moi, et c'est vous qui les jouez, donc à vous aussi de mettre justement l'intonation dans la voix, qui peut pas forcément écrire sur le papier, mis à part avec des mots entre parenthèses, qu'on comprend très bien. Il nous a tout de suite dit d'être nous-mêmes, en fait, et de jouer naturel au plus possible, même si on était justement un personnage qu'il avait créé et qui il lui a donné, on va dire, le souffle. Et nous, il fallait qu'on lui donne du mouvement à ce personnage. Et même si on n'est pas des acteurs de base, on n'est pas des acteurs.
Du coup, c'est comment... ça, c'est pas mal, parce que c'est à la fois donc, se mettre... pas forcément dans la peau d'un personnage, mais en tout cas, qu'est-ce qui vous donne comme intention de... au départ, Nawir, qu'est-ce qui vous indique sur le personnage, par exemple, avant de...
Ben, on a en général les scripts, donc on connaît notre texte. Maintenant, entre parenthèses, on va avoir justement les petits gestes qui vont nous diriger justement vers l'émotion à transmettre.
Les petites didascalies entre deux répliques.
Voilà.
Homme Laetitia se sent tourmentée après avoir cette phrase. Mais après, lorsque je leur filais les textes, bon, c'est vrai que j'abuse. Des fois, je leur donnais le texte une heure avant.
C'est vrai.
Des fois, c'est nous qui l'écrivons.
Et après, lors du tournage, Véro, qui je bug trop.
Ah, t'as la pression, là, oui.
Ah, là, c'est la pression, là. J'aurais pas un sachet pour vomir, au cas où.
Attends.
Et Véro, qui s'est chargé de la direction d'acteur, qui les coachait en parallèle, elle les laissait 10 minutes seuls entre eux, répéter leur texte. Je te laisse, Véro, parler de ta méthode de travail.
Quelle lâche.
J'ai eu à ton aide.
Merci.
Donc, bon, on a surtout étudié la psychologie des personnages, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut ressentir, pour la méthode, c'est simple, hein, d'être soi-même, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué quand on commence à jouer que de ne pas être soi-même, parce que justement on joue un personnage, donc ça peut sonner faux, tout simplement. Donc la difficulté, c'est d'arriver à se débarrasser de toutes les regards extérieurs qui font qu'on est freiné quand on joue, parce qu'il y a du monde qui nous regarde, qui a la caméra, et retrouver les émotions qu'on a dans la vie courante.
D'ailleurs, les émotions les plus dures, justement, elles ont été très dures à faire passer. Et c'est justement Véro qui me disait de me recentrer justement sur les émotions. Et si justement elle n'avait pas été là, je pense qu'il y avait certaines scènes que j'aurais pas réussi autant, puisque justement, certaines scènes, je suis arrivée au point justement d'être à l'intérieur du personnage où j'avais la larme. et justement, ça s'est ressenti. Et c'est fou, et je l'aurais jamais eu si...
Faut faire très attention quand on fait une direction d'acteur, parce que comme on va chercher justement des émotions au plus profond de soi-même, il y a des metteurs en scène ou des directeurs d'acteurs qui prennent un plaisir à détruire le comédien pour ensuite, disent-ils, le reconstruire et avoir la pâte à modeler qui leur plaît dans leur film.
Ouais, le
comédien après finit en HP, ça ils s'en foutent, hein, le film a fait 3 millions d'entrées, c'est ce qu'ils voulaient. Moi, cette méthode-là, non.
Mais pourquoi ?
Faut être tyrannique.
Parce que je préfère les torturer, tu vois, mais pas les bousculer complètement. Tu peux les réutiliser comme ça après.
Gros, je suis réutilisable.
Ah oui,
elle est recyclable.
Justement, par rapport à tout ça, là, vous êtes, à part peut-être Véro, d'après ce que je comprends, mais vous avez tous peu d'expérience dans le milieu du cinéma. Vous, Nawir, toi, tu choisis de faire une fiction, ce qui est pas rien, puisqu'en plus, on en parlera peut-être tout à l'heure en ce qui concerne la production, c'est quand même quelque chose qui est une autoproduction avec plein de mains. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'était sur... c'était quoi vous aviez comme référent dans vos imaginaires vis-à-vis de la question de jouer ou de réaliser ou de...
Tu veux dire nos influences
par exemple, ouais, voilà, ouais.
Des influences par exemple pour moi dans la réalisation ou...
Bah, pour toi, puis pour ceux qui ont joué pour la première fois, vous avez, est-ce que vous aviez des référents
Pour ma part, dans la réalisation, dès que j'ai commencé à m'y mettre, j'ai commencé à regarder beaucoup de films. Des films que je ne m'attrais pas auparavant. J'allais aux variétés, je regardais des films d'auteurs, des auteurs qui paraissent inconnus pour le grand public, mais qui ont fait par exemple le cinéma, qui sont reconnus. Et j'ai accroché directement avec Robert Bresson. J'ai vu sa méthode de travail en lisant son livre « Les notes sur le cinématographe » avec des phrases qui résumaient différentes étapes du tournage, du montage, de l'écriture. Et je me suis retrouvé dans ce style-là. Dès que j'ai regardé quelques-uns de ses films, je me suis dit... Je commence un peu à entrevoir un peu le cinéma. Et ça a été, on va dire, mon fil... Pas mon fil conducteur, mais mon maître à penser, quoi. Quand je parle de Bresson, c'est une référence pour moi.
C'est beau.
Ouais, alors du coup, ce qui est étonnant, c'est, je trouve, ce qui se passe au niveau de la diction et des dialogues. Ça s'affirme du premier volet au deuxième, je trouve. Et il y a une espèce de patte, alors peut-être une marque de ta fabrique à toi. Mais... À la fois, il y a un jeu, mais qui se déconstruit dans le dialogue. C'est vachement intéressant, je trouve, parce que il y a quelque chose qui va très vite quand les acteurs et les actrices parlent. Il y a une espèce de truc qui s'envole comme ça, qui à la fois est joué et en même temps
est vrai.
Est vrai et il y a une espèce de truc qui se rencontre entre le jeu et ce qui est vrai. Et j'ai l'impression que tous sont un petit peu sur le même diapason, ça ne veut pas dire qu'ils jouent pareil, mais dans la manière, c'est une question que je te pose, ça, peut-être à Véronique aussi, sur la manière dont la diction se déroule, se passe, comment vous y êtes préparés, parce qu'il y a quelque chose de commun à tous là-dedans.
On a tous jeté les chewing-gums.
je pense que c'est justement la première fois. Je pense que c'est ça le point commun entre nous. Par exemple, moi, par rapport à la question juste avant, je ne suis pas une très grande cinéphile. Donc, je n'ai pas vraiment de référence d'acteur ou d'actrice pour jouer. J'ai fait référence à mon imagination et à comment je réagirais, moi et le personnage, dans une situation similaire dans la vraie vie. Et c'est par rapport à plutôt cette pensée-là que j'ai joué qu'au conseil d'acteurs, c'est Véro justement qui après m'a dit bah, Laetitia, il y a des moments où il faut plus que tu transmettes une émotion, là tu te calmes un peu plus, tu t'agites moins, ou alors enfin voilà des directives justement qu'elle a suivies, sinon par moi-même j'aurais peut-être continué à jouer comme au premier volet.
Ah, dans le premier tu es dans une scène, mais tu as envoyé du lourd. Hein. Franchement, tu as très très bien joué, honnêtement. Je suis pas le mec qui est là pour vanter ses comédiens, mais dans le premier volet, elle apparaît dans une scène qui est la scène, on va dire, choquante pour beaucoup de personnes.
Pour moi aussi.
Et tu as joué, mais merveilleusement bien. Pour moi, j'ai trouvé, hein, et je suis pas le seul à le dire.
Je confirme.
Vous êtes gentils, les gars, merci.
Pourquoi tu dis pour toi aussi choquante ?
Comment ?
Pourquoi tu dis pour toi aussi choquante ? Tu veux dire
quoi ?
Parce
qu'il y avait des aspects du tournage auxquels je n'étais pas au courant avant d'arriver.
Ah, d'accord, c'est la face cachée, c'est-à-dire que moi, on ne vous disait pas tout.
C'est ça, à partir de minuit, tout a changé.
Sinon, il n'y aurait eu personne, je crois, c'est ça.
donc t'apprenais, il y a certaines choses, mais est-ce que ça a été une méthode de travail ou c'est arrivé juste comme ça ?
Ah oui, non, mais en 3 ans, tout ce qui a dû être improvisé pendant le tournage.
D'accord, c'était plus quelque chose d'une impro, quoi.
Non, mais ce soir-là, ouais, c'était...
Non, c'était pas une impro.
Non, c'est vrai, bon, c'était
une manipulation, alors.
Voilà.
Exactement, j'ai suivi.
Du réalisateur. Bon.
Tout à fait.
Il me l'a fait face à Star Wars.
D'accord, ok, ouais. Et quand vous avez tourné le deuxième, puisque vous avez... C'est ça que je trouve qui est chouette, c'est que vous vivez une première expérience. Et puis ensuite, vous la laissez digérer rapidement, presque avec une équipe qui est quand même similaire.
Oui, toujours la même équipe.
C'est exactement
toujours,
la même, toujours. À tous les endroits.
C'est ça. Ben moi, franchement, ce qui m'a surpris, bon, déjà qu'ils acceptent tous de m'accompagner dans l'aventure au toit du monde, sans me dire quoi que ce soit, ils étaient encore plus motivés que moi. Et honnêtement, quand j'avais des moments de flottement, j'avais le moral un peu à zéro parce que voilà, telle scène, j'arrivais pas à la tourner, j'arrivais plus à écrire. Ils étaient toujours plus motivés que moi. Et je me disais à un moment donné, Nawir, quand même, n'abuse pas. Du style, si tu n'es pas motivé, toi, personne ne le saura pour rigoler tout seul.
Le complot.
Non, mais franchement, et dès qu'on a terminé le premier, ils me disaient, mais on se languit de tourner. Pendant les moments de flottement, les quelques mois où on s'est dit, bon, allez, on écrit, on essaie de se reposer, tranquille. Je recevais des textos. Nawir, ça me manque de tourner. Ça me manque d'être en tournage. Ça me manque de recevoir les textes pour apprendre mon texte, pour apprendre le dialogue. Ça me manque les galères, les imprévus du tournage. Tu arrives, tu nous dis, bon, j'ai pas écrit le texte. Improviser, tout ça. Et jusqu'à la fin. Et franchement, je suis très, 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 très surpris, très, 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 très touché. Et... Je dis chapeau, hein, franchement, un grand merci. Un grand merci à toute l'équipe.
Ça prouve qu'il y a une énergie que t'as su insuffler sûrement. Et puis, bah, c'est ce qui est assez, assez beau, je trouve, c'est ce qui se retrouve dans le film. Il y a ça aussi de naturel. C'est-à-dire que dès le premier volet, on sent une espèce de cohésion, d'énergie, de trucs qui se passent, qui est un peu chimique entre vous tous. Et ça dépasse forcément la seule mise en scène d'acteur. Je pense qu'il faut autre chose pour que ça puisse se passer.
On peut mettre les grosses stars dans un film et faire un gros casting, et si les comédiens ne s'entendent pas personnellement, je pense qu'on le ressent, je pense qu'on peut le ressentir, alors que là il y avait une bonne cohésion, que ce soit entre comédiens, équipe technique, même les comédiens s'improvisaient, par exemple Perchman, cadreur ou je sais pas trop quoi, et il y avait cette osmose là qui a fait que tout s'est bien passé. Et...
Mais les comédiens, qu'est-ce qui fait que, pour continuer à dire dans la continuité de ce que vient de dire Nawir, qu'est-ce qui fait que vous avez eu autant d'envie et d'une deuxième partie de le continuer, quoi ? À moins que Nawir ait été payé au black. et qu'il ne le dit pas, mais je suis curieux de savoir, parce que ce n'est pas une expérience courte, c'est long, c'est de l'énergie.
Mais en fait, au départ, personnellement, moi je l'ai pris quand même à la légère. Je me suis dit, bon, c'est encore une idée farfelue de Nawir. Une fois c'est le dessin, une fois c'est la guitare, une fois c'est le baseball. Ça a duré combien de temps le baseball ?
Ça a pas duré trop longtemps.
Ouais, une séance simplement. Et donc, au fur et à mesure, on s'est pris au jeu.
Donc on s'est mis en tête que c'était ce que c'était vraiment le travail d'acteur, de comédien. Et donc c'est ce qui nous a poussé à continuer. On a pris plaisir à jouer. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette cohésion et cette ambiance de travail quand même dans notre groupe.
Oui, voilà, c'est pas réellement du travail, justement. C'est qu'à la base, c'est la réalisation de Nawir. C'est surtout ça, moi, qui m'a motivée. Et c'est surtout ça qui m'a motivée aussi dans le deuxième. Je me voue pas à une carrière d'actrice ou de théâtre, même si je me dis que je pourrais peut-être essayer de faire une
même
théâtre.
Même si on t'appelle, d'ailleurs.
Ah, il y a déjà des recruteurs.
Ah, bah, si par contre vous payez, parce que
tu vois c'est ça le truc qui nul, c'est une analogie.
Non mais justement c'est pour ça qu'on est resté avec Nawir. On savait très bien qu'on n'allait pas être payé.
Ah bon?
Bah oui.
Non, parce que le frangin insinue que je l'ai payé.
J'ai un iPhone, hein, et c'est pas pour rien.
Okay. Attends, là, ça remet tout en question. Je retire ce que j'ai dit.
Bon, moi, il y a un autre personnage dont j'aimerais qu'on parle quand même. Vous devinez lequel c'est? Nawir. Personnage qui n'est pas là.
Tu parles de Némé?
Non.
Marseille?
Ouais.
Ah oui.
Alors celui-là. Il est assez beau parce que c'est quand même pour pas tomber dans le cliché où c'est dur et je trouve que t'as réussi quand même dans la réalisation des choses qui sont vachement chouettes. Ça se passe sur pas grand chose en fait. Je trouve que notamment moi j'ai retenu des petites choses qui sont comme des plans d'ensemble comme ça de la ville mais très courts. On se tape tout d'un coup, bon, on se tape la bonne mère, ok, mais elle tombe sur un moment de montage qui, à un moment donné, nous fait une espèce de respiration, nous fait partir, alors qu'on a été vraiment complètement dans les personnages. Et tout d'un coup, là, tu nous donnes Marseille d'un coup, c'est-à-dire comme si les personnages ouvraient les bras et on se retrouve dans le... Non ? J'ai une connerie ou quoi?
Non, franchement, je vais pas dormir, je crois, cette nuit. Mais en fait, pour revenir à ce que tu disais par rapport au personnage de Marseille, vers la fin du volet 1, j'avais l'idée de faire un personnage omniscient, qui serait le personnage de Marseille, qui survolerait toute la ville, les différents personnages, et surtout, notamment les protagonistes du film. Mais qui en aucun cas agirait, interférerait sur les situations. Et j'en ai parlé à Véro, et je lui ai dit, Véro, j'aimerais faire un personnage omniscient qu'on ne voit pas, mais qui parlerait à des moments du film. Et elle me demande en gros comment serait le personnage. Je lui disais, bon, un personnage omniscient qui est juste spectateur, mais qui a beaucoup de recul. Et elle me dit, bon, tu sais quoi, j'ai un texte qui date de plus de 20 ans, qui a pratiquement ton âge, quoi. Elle me dit, bon, allez, elle l'a cherché. Et en fait, le texte en question reflétait l'image du film, l'esprit du film, le cœur du film, je veux dire. Et ce qui a été frappant lorsque j'ai vu ce texte sur le vieux papier qui avait jauni tellement, il y avait une phrase, c'est « Les toits survolent le monde ». Et dès que j'ai lu ça, je me dis, waouh ! Je me dis, waouh ! Le truc a été écrit il y a plus de 20 ans. Elle avait pensé directement à ce passage-là lorsque je lui ai évoqué l'idée du personnage de Marseille. Et je me suis dit, c'est beau. Je me suis dit, bon, le texte en lui-même est sublime. Et la référence, les toits survolent le monde, le film Le Toit du Monde, 20 ans auparavant, je me suis dit, oh, c'est un signe, quoi. Tu en penses quoi, Gnome?
C'est quoi? Une bonne tuile.
C'est ça, comme tu dis, une bonne tuile.
Et moi, par rapport à... Entre le premier et le deuxième, moi, ce que je trouve, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà, c'est la grande différence d'écriture quoi, qui a été choisie. C'est-à-dire que dans le premier, il y a quelque chose où les plans sont quand même beaucoup plus courts, il y a quelque chose où c'est beaucoup plus dynamique. Et dans le deuxième, les plans sont plus longs et il y a quelque chose qui s'installe plus, une apesanteur qui est plus là. Et je voulais savoir pour les comédiens, qu'est-ce que ça affecte pour vous comme façon différente de travailler ou d'habiter votre personnage, ce changement d'écriture qu'a choisi Nawir?
L'eau. Est-ce que je pourrais te couper pour un peu les aiguiller? Parce que tu as vu, entre le premier et le deuxième, il y a une différence d'écriture et une évolution. Ouais. Lorsque j'ai terminé le premier, j'avais tourné essentiellement avec deux caméras, limite trois. Et je me disais, bon allez, un champ, un contre-champ et un plan large. Et après, durant l'aventure, tu m'as dit, mais ça peut être une approche du cinéma, mais ce n'est pas totalement du cinéma. Et je me suis dit, bon, je peux tourner par exemple une séquence juste avec une cam. Et lors de l'aventure du premier volet, il y avait une séquence où j'avais tourné. Je me suis dit, bon, je ne vais pas embêter toute l'équipe. J'ai pris ma caméra pour tourner une séquence. Et je me suis retrouvé à la tourner en plan de séquence. Mais je n'avais même pas pensé. Dans ma tête, j'allais couper, mais je me suis dit, c'était une scène un peu en plus speed, cruciale. Je me suis retrouvé à filmer toute la scène en continuité. Et après diffusion, je me dis, mais le plan séquence, ça serait une approche qui serait intéressante. Je me dis, c'est le réel, on va dire, le plan séquence, parce qu'il n'y a pas de cut, il n'y a pas de montage. Et on est plus dans la scène avec le plan séquence. Et je me dis, bon, allez, pour le deuxième volet, pourquoi pas faire plus de plan séquence. Bon, donc, je me suis retrouvé avec une caméra. Bon, il y a des scènes où j'ai dû couper pour faire un champ contre champ, mais toujours avec une caméra. Mais la plupart des scènes du second volet ont été tournées en plan séquence.
En fait, t'as voulu éviter de faire du montage.
Ouais, voilà, c'est bon. Pourquoi tu me grattes comme ça ? Non, j'allais te payer pourtant ce soir. Et pour revenir à ta question... Oui, t'inquiète. Pour revenir à ta question, dans le second volet, il y a beaucoup de plans séquences. Et c'est vrai que pour les comédiens, le plan séquence, c'est du travail. C'est vraiment du travail. Je vous laisse parler là des galères que je vous ai fait endurer.
Je vois pas de quoi tu veux parler, Naoui.
Tu vois que le chèque marche bien.
Non, mais c'est vrai que... Ben, de toute façon, dans le premier volet, c'était vraiment la première fois aussi pour nous. Donc c'était déjà difficile, même si le travail de texte était moins évolué que dans le deuxième. Du coup, nous, on a évolué en même temps. Donc on a aussi un meilleur apprentissage des textes. Une meilleure intonation, ça allait peut-être plus vite. Et c'est vrai que du coup, Nawir s'est permis de nous faire donc ces fameux plans séquences où on avait des pages qui défilaient. Quand je les voyais arriver dans ma boîte mail, je me disais non, mais jamais je vais pas réussir à dire tout ça. Et Nawir, tu coupes jamais. Et puis finalement, eh ben, on s'est surpris quelquefois vraiment.
Et je pense quand même que le plan séquence, c'est une sorte de, on va dire, marathon.
De plongeon.
Ouais, plongeon, marathon. Tu fais ton marathon et à la fin, boum, tu plonges. Parce que voilà, c'est une performance quand même, hein, faire un plan séquence. Si la scène dure, allez, 4 minutes, 3 minutes, généralement elle dure 3 minutes, va tenir les 3 minutes. Tu sais pertinemment que tu dis un mot de travers, on devra tout recommencer. Tous les mouvements de caméra, tout ça, pour pouvoir arriver là. Tu regardes juste, ne serait-ce qu'une nanoseconde, la caméra, on coupe et on devra refaire tout le plan séquence. Vu que c'est un plan séquence, on ne va pas se permettre de dire « Bon, allez, couper, on refait juste cette partie-là. » Et je me dis que quand je les voyais, surtout quand j'écrivais les textes, je les envoyais, je me disais « Mais maman, Nawir, demain, on te donne ça. Tu apprends que dalle, hein. Je ne pourrais pas retenir tout ça. » Et c'est là je me dis « Mais ils ont acquis de l'expérience de fou. » On a tous commencé en mode... ma mère m'a dit « Commence pas à parler un peu quartier et tout, en mode et tout. » Maman... Oui, on a tous commencé, on va dire... vraiment, mais vraiment amateur. Moi derrière la caméra, eux devant. Et on a progressé tous ensemble. Surtout dans le deuxième, on a commencé à tourner les premières séquences. Je les ai vues. Je me suis dit, oulala, les jeunes, ils blaguent pas, franchement. Hein. Ils envoient du lourd quoi, dans la performance. Et je me suis dit, bon, il faut que je sois à la hauteur, moi aussi, des performances qu'ils m'offrent. Quoi. Et ça fait que voilà, on a progressé petit à petit, tous ensemble. Et. Voilà, vas-y, parle un peu de ton expérience, là. Parce que monsieur, à la maison, il se plaint auprès de la maman. Hein. Maman, Nawir, il me fait galérer. Nawir, il me fait tourner 6 jusqu'à 3 heures du mat. Il ne me paye même pas. Vas-y, tu peux te plaindre maintenant.
Moi, ce que j'ai aimé par rapport à cette aventure-là, c'est de voir l'évolution en regardant les deux. Au début, c'était assez quand même brouillon par rapport à nos interprétations. Et au fur et à mesure des tournages et des scènes, donc il y a quand même une amélioration sur les tournages et surtout par rapport au deuxième en tout point. Donc que ce soit sur le jeu d'acteur, la diction, les séquences. Déjà, tu avais une meilleure caméra, donc déjà c'était mieux. Donc il y a quand même une bonne évolution sur les deux volets. Et donc, c'est ce que je tiens à retenir et aussi une bonne ambiance dans le groupe.
C'est cool. Alors, dis, Nawir, pour rebondir sur ce que vient de dire ton frère, est-ce que ce serait peut-être pas bien d'envoyer un petit truc là, qui donne un peu un goût là, aux ceux qui nous écoutent de ton film? Donc, tu voulais balancer quelques...
Un petit passage du film, une scène.
Ouais, pourquoi pas, ouais.
Nawir, je vais lancer un petit bout, mais ce n'est pas tout à fait les calages que tu as proposés, parce qu'ils sont trop précis pour l'ordinateur.
Il n'y a pas de souci.
D'accord, donc on se met un petit bout de son de quelques minutes.
Tu peux mettre celle de Némé Letty Courju.
Attends, va aimer les petits courjus. Donc, le problème, c'est qu'il faut que je déduise. Ah. Tu vois, c'est en 71 minutes 39 moins 8 minutes.
Nawir, tu nous as foutu la merde.
Ah, mais chaque fois, quand on me dit ça, j'arrive toujours en galère.
71 minutes.
Ah, je sais même pas compter. Moins 8 minutes.
Je sais pas combien ça fait. Donc, 71 moins 8. Ça fait.
Vas-y, balance
ta purée, l'eau. 71 moins 8.
Bah, c'est
ouais, moi, je ne vous ai pas répondu.
82
Non, 62. Ça fait, on va aller vers les 62 si j'y arrive. Et puis, je pense que ça va peut-être correspondre. En tout cas, on se laisse dériver quelques minutes dans le son du film Le Toit du Monde.
Le volet 2.
Volet 2.
C'est parti.
Il y a une loi qui est passée pour les homosexuels, chérie. Hein. Mais je suis contente de te voir.
Je préfère.
T'as laissé une bonne soirée, t'as dormi,
t'as fait quoi?
Bon, ok, bah, j'ai dormi sur une partie de l'église en pleine nuit.
Mais je déteste quand tu fais ça, mais c'est pas grave.
Mais non, ça me fait pas de te savoir dormir dans une saison sans mes parents ni mes grands, donc.
Mais c'est dangereux.
Mais tu vois, non, on est arrivé. Mais moi, je te dis pas, j'ai pas passé la nuit avec toi, ça me fait trop bizarre.
Il y a un mec à la soirée qui s'appelle Nash, il fait du beatbox, il est impressionnant.
Tu devrais, je pense, même m'inviter à ton émission, tellement il a du talent. C'est le mec de la gare qui me l'a présenté.
Ah, le mec de la gare. C'est une affaire qui roule, hein, à ce que je vois.
Ça va, c'est pas comme ça. Puis il a une copine. Et ils sont ensemble depuis longtemps.
Eh ben, pour un mec qui a une copine, il a des drôles de manières de t'envoyer des SMS, hein.
Ça va.
Non, mais j'ai kiffé ce petit moment avec toi.
Non, mais je me demande ce qu'elle en penserait, sa copine.
On s'en fiche. Raconte-moi plutôt comment c'était avec les Thénardier.
Eh ben, comme d'habitude, ils m'ont fait la morale sur mes études, sur le fait que je devais arrêter la radio et trouver un vrai métier.
Ouais.
Et puis mon père, hein, sur ma vie sentimentale. Hein.
Tu as 24 ans, ta cousine a le même âge, elle est mariée.
Ben voilà, comme d'habitude.
Ça va.
Bon, bah, quand même, nous pourrions la journée, ces Thénardier.
Non,
on passe la journée ensemble.
Oui.
Vous savez, je me suis fait belle.
Wow.
Je ressens pas.
Ça va là, c'était à peu près ça?
Ah oui, c'était ça, pile poil.
Bon, super. Poil.
Donc tu voulais passer ce son parce que.
Pardon?
Pourquoi ce son plus que le premier?
Ben en fait, ça a été, on va dire, une des premières séquences, voire même la première séquence du. Tourné du deuxième volet. On l'a tourné en deux fois. La première fois qu'on l'a tourné, bon, j'ai perdu les rushs à l'aéroport. Et en revenant du pays, je leur ai dit, bon, j'ai perdu le... Je me replongeais dans le film. Et oui, c'est une des premières séquences du deuxième volet qu'on a tourné. Et... Je l'aime bien. Je sais pas. Surtout le niveau jeu, niveau diction. C'est là où je me suis rendu compte que alors là, ils envoient du lourd. Ils sont... Elles sont en forme, le niveau là. Donc, Nawir, il faut que tu assures. Donc, je me suis dit ça en rentrant et après avoir dérushé, quoi.
Et celle-là, vous l'avez tournée, par exemple, plusieurs fois?
On l'a tournée deux fois.
Ouais.
Deux fois.
La première était excellente, mais j'ai perdu les rushs dans mon disque dur. Et voilà. Et je suis très content de la deuxième, parce qu'il y a quelques améliorations au détail, mais qui ont fait la différence.
Parce qu'il y a des scènes que vous tourniez plusieurs fois, ouais. Il y en avait...
Honnêtement,
Honnêtement,
les scènes, par exemple, tu vois, toutes les scènes du deuxième volet, pratiquement, elle les a toutes tournées au moins deux fois.
Au minimum, alors.
Minimum, alors. Certaines scènes, il y en a une, on est monté à combien? Trois. La scène au terrain de basket, le soir.
C'était pas quatre, celle-ci?
Ah ouais, allez, vas-y. Ouais. Ouais, quatre. Mais voilà, on a tourné, et toutes les scènes qu'on a tournées également, mais qu'on n'a pas gardées au montage final, je pourrais faire un autre film avec toutes ces scènes-là. Tellement il y a des scènes qui sont dans le disque dur, qu'on n'a pas gardées. Je pourrais faire un troisième film. Hein. Mais,
pourquoi pas,
hein. Ah non, la retraite maintenant.
Alors Naouir, on ne peut pas parler comme d'hab de cinéma quand, sans parler de son.
Oui.
Alors comment ça se passe dans la petite entreprise
Ben, la petite entreprise, lors du premier volet, elle a connu la crise. Hein. Non, mais en fait, je vais t'expliquer, tu vois, par exemple, le premier volet, le plus gros défaut que je trouve, bon, il y en a beaucoup, mais celui qui est plus flagrant, c'est le son. C'est le son dans le premier volet. Pour vous dire, un membre de l'équipe qui n'est pas là, qu'on salue d'ailleurs, Rodrigue.
Bonjour Rodrigue.
Salut
Rodrigue. Et en passant aux autres membres de l'équipe qui n'ont pas pu venir, Axel, Dracas, Drissou. Et toutes les personnes.
Heureusement qu'ils n'ont pas pu tous venir parce que. J'avais peur qu'on soit 150 dans le studio. Mais...
Voilà, c'est vrai. Si vous venez lors des projections, oui, nous sommes beaucoup. Mais...
Oui, on sait, oui.
Et j'ai perdu le fil là.
Oui.
Le son. Et mon collègue Rodrigue avait accès à une perche pour le premier volet qu'il empruntait à son école de cinéma. Et il y a eu un litige entre-temps entre l'école et lui, et nous n'avons plus de perche. Nous avons dû faire avec le micro-caméra. Nous avons fait tout le film avec le micro-caméra, et qui dit filmer avec le micro-caméra, lorsqu'on veut hausser le ton du dialogue, le son du bruit ambiant augmente également. Et ça fait que voilà, niveau son, c'était pour moi le plus gros souci. Quoi.
Ah oui, tu connais pas le balai serpillière, tu prends le manche, tu l'enlèves, et tu mets un micro au bout.
Oui, mais j'avais même pas de micro. Un autre micro.
Ah ouais.
Ouais.
C'était la galère.
C'est ça le cinéma français.
C'est ça, mais c'est vrai, maintenant je vais. Mais bon, après pour le deuxième, on s'est dit, bon, même avec une perche, et la bonnette et toute l'artillerie, le son. Bon, on a quand même. Je pense qu'il y a quand même des progrès pour le niveau son du deuxième volet, mais je sais qu'il y a encore énormément, mais énormément de progrès à faire. Dans le son, mais bon, dans tout, mais surtout le son, parce que voilà, le son c'est 50% d'un film, quoi.
Et bien justement, mais qu'est-ce que. Alors, là-dessus, tu donnes des indications ou tu laisses complètement ton collègue s'en charger, etc. Qu'est-ce que.
Mais en fait, tu vois, quand. Bon, on arrive sur le lieu du tournage, je place les comédiens où ils se placent eux-mêmes, je me dis, bon, en fonction du cadre que je vais employer sur ma caméra, je lui dis, bon, soit tu peux percher par le bas, soit par le haut, pour essayer qu'il n'y ait pas de détimbrement, pour que le son soit vraiment bon. Après, bon, je le laisse faire, je lui dis, bon, allez, soit par le haut, soit par le bas, mais tu as ton casque, tu fais en fonction de ce qui se passe, la scène, s'il commence un peu à bouger, tu les suis, mais sans trop te rapprocher pour pas qu'il y ait de saturation ni de larcène, mais il a déjà de l'expérience et... Je l'ai laissé faire, franchement, avec la confiance. Dès qu'il est apparu, c'est Drissou, dédicace à toi, l'homme du second volet.
Big up, moi, big up.
Voilà, c'est l'oreille. Je me dis, voilà, le son d'un film, c'est hyper important. Et dès qu'il est arrivé, je me suis dit, bon, franchement, ça fait déjà une charge en moins, quoi. Je me dis, bon, allez, je peux déléguer cette partie-là. Il est beaucoup plus qualifié que moi dans ce domaine-là. Je sais que je peux me reposer dessus. Pareil pour la direction d'acteur, j'écris le scénario avec les indications, mais des indications qui sont écrites noir sur blanc. Heureusement qu'il y a Véro qui est là pour les coacher, pour leur, comme disait Laetitia, pour leur donner l'émotion, l'intonation, faire sortir tel sentiment. Et voilà, avec cette équipe-là, je me dis, bon, allez, déjà que j'écris, il y a le storyboard, je me dis, bon, allez, tant qu'on peut déléguer, ce qui est bien avec des personnes qui sont hautement qualifiées, je peux plus me concentrer sur la réalisation au lieu d'être un peu partout. Merci à tous d'être là.
Merci à toi.
D'ailleurs, je voulais poser plus des questions sur ce que... Parce que le titre du film, c'est Le Toit du Monde.
Yes.
Je ne sais pas qui nous écoute, mais ils n'ont pas forcément vu le film. D'ailleurs, si on veut le voir, c'est quoi les possibilités?
Le premier volet sur YouTube, vous tapez Le Toit du Monde épisode 1.
Tout attaché?
Non, avec les espaces,
d'accord,
tranquillou.
Le Toit du Monde épisode 1.
Et il y a le site Laetitia qui me met des coups de poing à l'épaule, qui est également actrice et chargée de communication. Je te laisse.
Donc vous retrouverez Le Toit du Monde sur le site le toit du monde.fr.
Oui, il y a également le Facebook Le Toit du Monde. Il y a la page Le Toit du Monde à Marseille.
Pour être tenu au courant des
Les actualités.
D'accord.
Et bon, voilà le premier épisode, le premier volet sur YouTube. Le deuxième, on va le mettre incessamment sous peu. Je reçois beaucoup de pression pour le mettre sur le net. Mais on privilégie d'abord les projections. On en a fait quelques-unes depuis novembre quand on a terminé.
D'accord. Et donc, Le Toit du Monde, déjà, pourquoi le titre et qu'est-ce que raconte ce volet ? Qu'est-ce que vous avez voulu ou tu as voulu raconter ?
Ben, le titre, tu vois, dans le deuxième volet, il y a un personnage qui se nomme Ania qui explique le terme Le Toit du Monde au personnage de Elam. Pour moi, Marseille, bon, sans être chauvin, hein, sans être chauvin, pour moi, Marseille, c'est la ville cosmopolite, on va dire, en France, quoi. C'est the ville cosmopolite, avec un grand mélange de culture, de religion, tout ça. Et pour moi, voilà, quand on est au sommet d'un art, quand on réussit dans un sport, on gagne je ne sais quoi, on dit qu'on est sur le toit du monde. Et voilà, pour moi, Marseille est sur le toit du monde de toutes ces valeurs-là, de mixité sociale, de chaleur.
Moi, j'ai une question. Yes. Tu l'as appelé le toit du monde. Pourtant, t'as pas le Népal.
Oh. Là, elle était bien celle-là, Gnome.
Elle est super.
Elle est super.
Comme costaud. Pardon ? Elle a raison en plus.
Oui, c'est vrai que j'ai. Tu m'as dit quoi ? J'ai pas le Népal, hein, mais j'ai un bonnet. Mais alors que j'ai une casquette. Bonnet, casquette. Elle était bien celle-là quand même. Bah, non, même pas.
Si, elle est pas mal. On la prend,
ok.
Donc, Le Toit du Monde, d'accord, Marseille. Une ville cosmopolite et ville dans laquelle vous êtes né,
oui.
Donc c'est non. D'accord. Sauf la directrice de production, mais vous trois, vous êtes de Marseille.
C'est bien ça.
C'est un peu sur l'ensemble des comédiens et comédiennes qui sont dans le film, c'est ça à peu près,
oui,
ou parce que c'est en fait des amis que tu as connus très tôt.
Très tôt, voilà, même durant l'aventure, hein, par exemple, le personnage.
C'est pas que tu n'acceptes pas les immigrants, non ?
Non, je dirais pas Marseille, tu la mouches, tu la quittes, non, pas de genre. Non, même si moi qui viens de du Népal, il va jouer dans le film, il est motivé. Je le prends direct, hein. Mais directement, direct. Et ouais, nous sommes Marseillais 100%. Hein. Et
donc, ça,
franchement, moi, comme je dis, Marseille, moi, je l'aime comme si je l'avais bâti de mes propres mains. Mais la fondation, tu peux même appeler Protis si tu veux.
Et alors, donc ça parle de Marseille.
Oui.
D'accord. C'est toi qui as écrit ces deux histoires. Et par exemple, les comédiens ou les autres personnes, est-ce qu'ils ont eu un mot à dire ?
Ah oui, oui.
C'est construit avec.
Mais à la base, ouais, il y avait la trame, j'avais déjà une fin, mais entre le début et la fin, bon, il y a les méandres des personnages, les méandres cinématographiques, mais oui, il me donnait beaucoup d'indications, par exemple, même des conseils. D'ailleurs, tu vois, ce personnage-là, normalement, il ne devrait pas réfléchir comme ci, réagir comme cela. Il m'a orienté en travail, même lors du. Oh, je bug.
C'est surtout au niveau du texte que nous, on venait ajouter notre patte. Parce que l'intention, en général, elle était là, même si des fois, c'est vrai qu'on était dans de l'impro. C'est jamais de l'impro vraiment imprévu, quoi. C'est de l'impro où, justement, je pense qu'il va se dire qu'on transmettrait mieux cette émotion-là avec nos propres mots qu'avec ses phrases. Même si la plupart du temps, on est indiqué par ses phrases, il y a certaines scènes qui, d'ailleurs, et c'est vrai, hein, ça s'est retrouvé, du coup, être plus naturel, puisque c'était plus nous que lui qui avait mis les mots sur l'émotion qu'il nous avait dit, justement, de transmettre.
Par exemple, il y avait certains termes où je disais, bon, tu dois garder ça tel quel, mais sinon, le reste, tu as l'idée globale dans la tête, tu le dis avec tes mots.
Toujours des mots.
Voilà.
t'étouffe pas.
Ouais, c'est bien, excusez-moi.
Alors, tu parlais tout à l'heure de Bresson.
Yes.
qu'est-ce que tu quand t'es au tournage, du coup, alors, ou avant même, qu'est-ce que tu gardes de lui en tête quand tu, si, est-ce qu'il, si, si, si devait y avoir un truc que tu gardes et qui t'a marqué dans, dans ses lectures et tout ça,
ça serait surtout tournage, rien dans l'inattendu qui ne soit secrètement attendu par toi. J'arrive, bon, la veille, je prépare, j'écris, bon, le scénario, je prépare mon storyboard, et j'ai déjà, je fais un repérage au préalable, et je me dis, bon, on va tourner comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Lorsqu'on arrive en tournage, des fois, bon, il y a
des aléas.
Des aléas du tournage, bon, il y a des travaux, des gens et tout. Mais bon, voilà, c'est cet aspect où tout est préparé, mais tu sais que, voilà, un tournage, rien ne se passe comme prévu. Et des fois,
tout bon, peut se passer.
Tout peut se passer, c'est clair.
Oui, ce que tu veux dire, c'est que tu es quand même imprégné de, des scènes à l'avance de, que tu as envie de tourner, mais tu ne t'empêches pas, bien sûr.
Une grande liberté.
Une grande liberté.
C'est ça.
C'est-à-dire que, ouais, okay.
On pourrait se dire, bon, c'est de l'improvisation, mais bon, toute improvisation est quand même basée sur, sur une sorte de truc qui est préparé. On peut arriver sur le tournage, je leur disais, bon, vous savez quoi, vous ne fixez pas là, vous déambulez, moi je vous suis avec la caméra, même si dans le storyboard, cela n'était pas mentionné.
Alors, il y a... Ouais, pardon, Lo, tu voulais dire un truc.
Non, je pensais à Véro. Véro, toi, tu t'occupais de la direction de production, on va dire, au sens large ou strict du terme. Et là, dans cette aventure, qui est quand même une aventure, on va dire, humaine, d'amis, un peu autoproduit, c'était quoi le plus compliqué pour toi?
Le plus compliqué? Rien de très compliqué, parce que ça a d'abord été une aventure extraordinaire.
Merci. C'était, j'ai rigolé.
Tu m'as eu. D'abord parce que c'est assez facile d'avoir déjà une direction d'acteur, pas de production, hein, parce que la production, bah, c'est chacun d'entre nous. Il n'y a pas deux directions de production, parce que c'est les efforts de tout le monde, les efforts de tous ceux qui ont prêté les caméras, les perches.
Qui sont venus clapper,
qui sont venus aux événements.
Voilà, donc après pour le travail, la direction d'acteur, pas compliqué, parce que j'ai eu affaire à des comédiens très intègres. Donc à partir de là, il n'y a pas de problème. On a des difficultés, c'est compliqué quand les gens se cachent derrière des tonnes et des tonnes de masques, de... Enfin, là, c'est des gens bien.
Merci.
Donc, c'est... Voilà. Après, ce qui peut être plus compliqué, ça serait pas à ce niveau, ça serait au niveau d'une grosse... Pas, j'allais dire d'une vraie production, mais c'est pas ça que je voulais dire. D'une grosse production, là, ça deviendrait compliqué, parce qu'à partir du moment où on parle d'argent, ben là, on commence à rencontrer des gens compliqués.
Ouais, c'est pas faux. Oui, moi je voulais ajouter quelque chose, mais ça m'est sorti.
C'est le mot grosse production qui t'a fait perdre ton idée.
Qui m'a fait bugger. Ouais.
Lo, tu t'enchaînes.
Si vous voulez, je peux poser des questions à Naoui, hein.
C'est ce qu'on appelle la production.
On va garder ça pour la fin, la torture de Naoui par ses acteurs.
Règlement de compte.
T'en penses quoi?
Pardon?
Un petit bout de son.
Oui, oui. Est-ce que tu pourrais passer Némé Jones Pelouse, s'il te plaît?
Le 113-498-16.
C'est ça.
34 minutes 30, moins 71 minutes.
Mon Dieu, c'est reparti.
Je suis désolé.
Tu m'expliqueras, Lo, c'est quoi le... D'accord, putain.
On se croirait à la NASA, là.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Attention, on appuie sur le bouton numéro 3.
C'est parti.
Mise à feu.
Quel état?
Ça va.
Comme à son habitude, Annie est en retard.
Ouais.
Il va nous dire encore qu'il a dû sauver une famille d'un immeuble en flammes.
m'a pas encore fait ce coup-là. Hein. Moi, j'ai eu le droit à la grand-mère qui galère à traverser avec ses courses. Ça l'a retenu un quart d'heure.
Sacré lien.
J'ai pas envie de décrocher. Problème de couple, je me demande si je serais pas mieux toute seule. Je sors avec une nana. Ta-da ! Et c'est la première fois que je sors avec une fille et du coup je me pose plein de questions.
Du genre ?
Où est-ce qu'on va ? Enfin, est-ce que je vais passer ma vie avec elle ? Pourquoi elle en particulier ?
C'est quoi le problème ?
Elle sait pas ce qu'elle veut. Elle assume pas notre relation, il y a personne du côté de sa famille qui sont au courant. Tandis que moi, ils sont au courant, mais bon, moi, ils m'ont foutu dehors et ça m'énerve.
Comment s'en sortir quand la vie n'a pas d'issue ?
Vouloir repartir quand le monde nous a déçus. Mec, j'adore cette chanson. Mais c'est vrai, c'est trop dur de se faire une place dans cette société. Il suffit que t'aies pas le bon milieu social, ta couleur de peau, ton style vestimentaire, ta sexualité, ta religion.
C'est un peu mon cas quand je vais au pays. Les gens me considèrent pas comme malgache vu que je suis né en France.
Mais oui.
Et ici, à cause de ma couleur de peau, mes origines, certains disent que je ne suis même pas français. L'impression d'être chez soi nulle part. D'être un homme sans racines.
C'est n'importe quoi. Qui suis-je ? Où vais-je ? Dans quelle étagère ? C'est des questions qu'on se pose tous, mec.
Effectivement. Et si j'ai bien compris, c'est la première fois que tu sors avec une meuf ?
Ouais.
Donc, t'as eu des gars auparavant ?
Oui.
Alors, où vais-je ? Qui suis-je ? Dans quelle étagère ? Finalement, c'est un peu le centre du film, ça. Et vous choisissez d'aborder des thèmes problématiques, assez contemporains. C'est venu comment ça, parce que il y a l'intention de, tu parlais tout à l'heure d'un côté réaliste, il y a l'intention de raconter des choses qui sont de votre quotidien.
C'est ça. Ben, tu vois, c'est une question qu'on se pose tous, qu'on soit jeune, moins jeune, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, quelle est ma place dans la famille, dans un cercle d'amis, dans la société. C'est des questions qu'on s'est posé à 15 ans, 28 ans, je pense qu'on se posera éternellement. Surtout pour, voilà, nous sommes Marseillais, une ville où il y a un grand mélange et tout, du métissage. Et on vient d'un peu partout dans le monde. Et voilà, on se pose des questions, on se dit, bon, comme le personnage de John s'est interprété par mon frère à l'intérieur, il se pose des questions, il se dit, bon, il dit à Nami, en gros, je ne sais pas qui je suis, parce que quand je vais au pays à Madagascar, on ne me considère pas comme malgache. Alors qu'ici, à cause de ma couleur de peau, de mes origines, on ne me considère pas comme français. Être un homme sans racines. Alors que Némé, voilà, elle se pose des questions. Qui suis-je ? Parce qu'elle se recherche, voilà, sexuellement. Je ne vais pas dévoiler le film, mais c'est des questions qu'on se pose, des questions existentielles. Des questions qu'on se pose tous quand on habite dans le quartier nord, centre-ville, quartier sud, à Tombouctou, à Marseille, à Tijuana. C'est des questions existentielles, propres à l'humain.
Éternel.
Éternel.
Ce qui quand même, c'est vachement intéressant parce que, bon, la ville de Marseille et le, comment dire, l'environnement qui habite le film, etc. En même temps, la ville aussi change
beaucoup.
On pourrait imaginer que tu, bon, il y a quelque chose qui puisse soit te gêner, soit que tu puisses en parler, etc. Or, tu t'intéresses à d'autres choses, c'est-à-dire que la ville, elle est toujours là en trame de fond, etc. Elle a cette présence, comme tu dis, là tout le temps autour, etc. Et pour autant, toi, ce qui t'intéresse, c'est de savoir quel mouvement il se crée toujours dans cette ville, et ça se passe par les proches, c'est-à-dire ce que tu vis.
Ce que je vis, ce que mes collègues vivent, parce que comme tu dis, voilà, Marseille, on le sait depuis quelques années, est un chantier à ciel ouvert. C'est depuis 10 ans, voilà, des travaux de partout jusqu'à maintenant. Et la ville change, le corps de la ville change, mais l'âme de la ville est toujours le même. On aura beau bâtir 20 000 Mucem, 20 000 je ne sais pas trop quoi, le cœur de Marseille, l'âme de Marseille sera toujours Marseille. Les gens, les Marseillais seront toujours Marseillais, même si leur ville change, même si on les pousse à changer en changeant leur ville. Et
ça fait du bien d'entendre ça, en plus que d'entendre ça d'un Marseillais. Alors.
Ah, mais
moi, qui suis pas Marseillais, ça me rassure.
Ah non, non, ils ont beau changer notre ville, faire des disparités à gauche, à droite, faire ci, faire ça, on est Marseillais, on est l'âme, l'âme ne pourra pas la changer. Franchement, ils pourront changer les bâtiments. Rien qu'on prend l'exemple des travaux, par exemple, je vais sortir par exemple la rue de la République, parce que j'ai fait ma scolarité, ma primaire à François Moisson. Et tous les jours, j'empruntais la rue de la République. Et pour moi, la rue de la République, de ma naissance à 11 ans, 12 ans, c'était la rue populaire où il y avait beaucoup de restaurants vietnamiens, il y avait beaucoup de snacks, mais c'était vivant, la rue était vivante. Et avec les travaux d'aménagement, le rachat par les grosses sociétés américaines, ils ont viré les populations pour créer des magasins, pour faire de l'économie des appartements à des prix exorbitants. Et comme quoi, en changeant, ne serait-ce que la ville à travers les travaux, on oublie et nous tue notre mémoire. Par exemple, j'essaie de me rappeler de la rue de la République avant. J'ai des flashs. J'oublie, je me dis, attends, c'était vraiment comme ci, c'était vraiment comme ça. En changeant notre ville, ils ont également changé notre mémoire. Ils nous ont effacé comment était notre ville, comment était, par exemple, cette rue-là, une rue chaleureuse, populaire. Et voilà, je trouve ça
c'est important, il n'y a pas de coup à l'âme.
Boum.
Non.
Pardon ?
Tu dis l'âme, elle reste toujours la même.
Ouais, elle reste toujours la même. Hein. Parce okay. qu'on se dit, bon, en tant que le cœur y est, même si la façade elle change, on reste à nous-mêmes, c'est pas eux qui vont venir nous changer. Et je me dis que voilà, quand je regarde par exemple dans le film Marseillais comme un aimant, qui a été tourné en 2000, je revois Marseille comme c'était avant, ça fait plaisir qu'il y ait des traces des films, des clips, par exemple Belle's Breakdown de Bouga, ça fait plaisir de voir comment était Marseille avant. Avant toutes ces transformations causées par l'argent et compagnie, ça fait plaisir qu'il y ait des traces pour que nous, on se rappelle, notre ville, notre truc était comme ci, comme ça.
Mais je pense que, moi, je ne sais pas si tu ou si vous vous êtes dit ça en faisant ce film, pour moi, c'est deux films, comme aussi, je pense que c'est une des fonctions importantes du cinéma, c'est de faire trace, quoi.
C'est ça.
C'est-à-dire que ces deux films, ils font trace d'une façon de voir Marseille, une façon de le vivre
moi,
à une époque
moi,
autour d'une génération.
Je serais content dans 10 ans si Inch'Allah j'ai des enfants je sais pas
j'en suis sûr
de montrer même je sais pas mon petit du quartier qui vont venir plus tard de montrer comment était la ville avant.
On sait pas qu'on oublie, quoi,
qu'on oublie tout à l'heure. C'est ça, parce qu'en échangeant,
j'ai du mal à me souvenir. Bah,
certaines choses, ça tue notre.
Bah oui.
Et ça fait plaisir de voir comment était notre ville en 2012 à 2014. De voir les collègues comment ils étaient en 2012-2014 en disant, oh pétard, oh mais tu as pris du vin, André, tu n'étais pas comme ça. Ouais, tu vois, cette atmosphère, cette ambiance, cette. L'âme, quoi, l'âme de la ville.
Comme ça, tu pourras voir si t'as pris du ventre, c'est ça.
Mais tout ça pour ça, bah oui.
C'est ça. Et donc, ces deux films, vous les avez un peu montrés. Comment ça s'est passé
On a fait des projections...
Multiples.
De multiples projections. Par exemple, on faisait toujours les premières polygones étoilés. Après, de réseau en réseau. Casa Consola, la compagnie.
Compagnie, ouais.
En plein air à la Hall Puget, à Belzé.
Vous étiez. Et l'équipe est présente à chaque fois ?
Ah, oui.
D'accord. Je les laisse parler. Comment.
Alors, comédien, qu'est-ce que ça a été pour vous comme deuxième expérience ? Parce que c'est encore différent de jouer. Parce que là, vous ne jouez pas, vous êtes à côté de vous.
Après, personnellement, moi, j'arrive pas à me regarder jouer, donc je suis toujours à l'écran. Mais quand même, ça fait plaisir d'avoir les retours des gens. Et qui nous disent vraiment ce qu'ils pensent du projet. Et généralement, ce sont des avis positifs. Donc, on est surtout là pour voir comment le projet a été accepté par le public.
Bah pour moi, ça a été très dur.
Surtout le rôle que je t'ai donné avec ça.
Mais surtout, comme il disait, Nad, lui, il ne se regarde pas. Mais moi, quand même, j'ai envie de voir ce que les autres voient de moi. Donc, je regarde.
Non, je tiens à préciser un petit truc. C'est parce que lorsque je tourne, lorsque je monte, aucun comédien, à part mon frère, bon, ils ne regardent pas.
On est obligé d'attendre.
Ils sont pas, ils regardent aucun rush, je leur montre rien. Ils tournent leur scène chacun de leur côté, mais ils savent pas ce que l'autre a tourné. Ça fait que lors de la projection, il y a une grande surprise, surtout pour eux. Et franchement, je les envie, moi. Je me dis, bon, ils vont s'installer, ils vont voir pour la première fois le film, ils vont voir comment j'ai monté ça, comment je les ai filmés, qu'est-ce que les autres ont tourné. Moi, j'ai plus cette excitation-là, je me dis, mais ça me fait kiffer.
Mais justement, ça a été plus sur le 2. Sur le 2, je pense qu'après le tournage du 1, c'est vrai que tu gardais souvent les scènes, mais on était... souvent présents, enfin, les acteurs d'une scène à l'autre, donc on suivait plus ou moins la trace, même si tu nous racontais pas vraiment l'histoire, parce que ça a été ça, c'est vrai qu'il l'a caché, donc ça a été le combat à chaque fois pour savoir
c'est quoi la fin.
Et sur le 2, il a été encore plus strict. Là, par contre, il nous prévenait même pas, au moins comme ça.
Secret d'État jusqu'à la fin.
Alors, le montage,
on a vraiment découvert.
Ouais. Mmh. Bon.
Bah, dans le premier, c'était la première fois qu'on se voyait en tant qu'acteur. Moi, je sais que c'est à partir de là que je me suis dit non, mais c'est vrai, c'est pas juste un projet comme ça, c'est vraiment son projet. Il le fait, il l'a fait, il va le continuer, il va faire ça de sa vie. Ok, bon, bah, Letty va t'acheter du fond de teint. Voilà. Alors, j'ai acheté pour la première fois de ma vie du fond de teint pour les tournages de Naouya. Non mais c'est vrai, ça c'est vrai, mais au-delà de ça, c'est vrai que surtout dans le 2, moi j'ai vu, ça m'a fait plaisir parce qu'il y a la mère de Zach quand même qui m'a dit que je l'avais fait pleurer. Alors ça a été la première fois que j'ai ressenti que je pouvais toucher vraiment quelqu'un. Et ça, j'ai trouvé ça fort et je me suis trouvé ça pas mal. D'ailleurs, j'attends la suite. Hein.
Comment la suite ?
J'attends, c'est pas la retraite, j'attends la suite parce que du coup, ça m'a donné goût quand même.
T'attends la suite pour savoir ce que tu vas devenir dans la vie, c'est ça ?
Non.
T'y as pris goût, mais dans ce cadre particulier.
C'est-à-dire dans le cadre du projet de Naouir.
Bah, dans le cadre de travailler avec Naouir, où tu as pris goût.
J'y ai pris goût à travers le fait que ce soit le travail de Naouir, parce que je sais pas si je l'aurais vraiment fait. Si on me l'avait demandé comme ça, j'aurais surtout rigolé. Là, c'est que je me suis dit s'il veut faire ça, je le croisais en fait. Naouir, on se croisait souvent quand on est parti à la fac, on n'était plus à la même fac et donc on se croisait. Et à chaque fois qu'on se croisait, c'était le même projet. Il me disait, mais ça y est, là, je vais le faire. Alors je lui ai dit, si je peux faire quelque chose pour toi, quoi que ce soit, tu me dis, il n'y a pas de problème, je suis là. Et voilà. Il n'aurait peut-être pas dû. Non, mais donc c'était vraiment une belle expérience. Et aujourd'hui, c'est vrai que si on me propose, pourquoi pas.
Ah, mais je t'ai retenu direct pour un prochain film. Hein.
Ah, voilà.
Il y a aussi cet aspect de travailler avec la même équipe. Parce qu'on m'a montré des réalisateurs qui tournaient pratiquement toujours avec les mêmes comédiens. Pour citer un réalisateur marseillais, Guédi Guian, j'ai maté sa filmographie. Et c'est vrai, il utilise toujours ces mêmes acteurs qui sont ses amis. Il y a sa femme, Ariane Ascaride. Mais travailler en famille, c'est ça qui est aussi plaisant.
C'est la complicité.
C'est ça, la complicité. On n'a même pas l'impression de travailler, c'est ça.
Moi, je m'amuse.
Même si on sait qu'il y a des moments où on doit être sérieux, on rigole, mais on sait mêler le tout et travailler tranquillement. Quoi.
C'est le cinéma joyeux. C'est
excellent. Ah ouais, franchement.
Alors d'abord, j'aimerais bien que tu nous parles d'une absente qui est la copine, justement.
Némé,
qui est assez époustouflante quand même. Hein. Faut le reconnaître.
Ah ouais, il faut le dire, franchement, c'est vrai que...
Big up à toi, Némé.
Némé,
ce soir.
Le boulot, et Amélie, elle travaille à côté, hein, si tu nous entends. On t'aime. Mais pour citer l'exemple de Némé, je crois que c'est une des seules comédiennes. Non, ouais, c'est la première comédienne qui faisait pas partie de mon cercle d'amis. Elle a entendu via une connaissance que je tournais un film. Et elle est venue spontanément, elle m'a dit, si tu as besoin d'un personnage ou quoi, moi je suis prête à jouer. Et alors que j'avais déjà 4 personnages que j'avais déjà distribués, elle me dit, Nader, elle m'envoie des textos de temps en temps, si tu as besoin, moi je suis là. Je me dis, mais elle est motivée en fait. Hein. Ça fait que j'ai créé un personnage pour elle, parce qu'elle était vraiment motivée, mais c'était la au début c'était la plus homogénée, je la connaissais même pas, elle m'envoyait des textos, hey mec, mec, ne m'oubliez pas, moi je suis là, hein, nanani, nanana, et voilà. Et c'est vrai qu'elle joue
super, bien, vraiment ouais. Bien.
Ah ouais, ouais, Véro, qui pourra en parler, qui l'a dirigé.
Ah ouais, moi c'est un plaisir et je suis bien contente parce qu'il y a des grands metteurs en scène qui vous ont pas eu. Ah oui.
Ça va chauffer à Cannes, c'est le
plus. Yes, we can.
Dans notre analyse, yes, we can.
Ah, ça c'est excellent. Quoi. Non, mais... C'est qui l'a trouvé? C'est toi là?
Ah, c'est mon chef de la poste. Si tu nous écoutes, un gros gros bisou. Et voilà, voilà, il nous a sorti, m'a sorti ça un jour au bureau. J'étais là en train de trier mon courrier. Et il passe dans les rangs, il me dit alors, Nahir, yes you can. Par rapport à mes tournages, il fait bien sûr. Il me dit yes you can. Je suis bien sûr. Il me dit yes you can. Après, il prend un papier. Can, comme can. Je fais au pétard comme c'est trop fort ça. Ah oui, c'est devenu notre
devise.
Notre devise, yes you can. Ah oui, oui. On compte braquer un jeu en termes d'or avec un film fait maison. C'est ça.
Tu nous as vendu, Nahir.
Le dixième.
Alors, Nahir, trois mots sur ta recette de cuisine, question montage.
Question montage. Bah, en fait, bon, le montage, en fait, il est, pour ma part, il est un peu fait lors du storyboard. Je suis là, je prends mon scénario, ma scène, et je me dis, bon. Je vais la découper comme si je veux qu'il y ait un plan large, un plan serré, un gros plan. Et le storyboard influence beaucoup le montage.
Allô, allô.
Allô. Ouais, on a une intrusion en même temps.
Oui, j'ai vu une invasion. Une deuxième invasion arrive. Oui, ouais, le montage est dirigé beaucoup par le storyboard. Parce que lorsque bon, j'écris la scène, je me dis, bon, allez... Pour la visualiser, pour faire les plans, je la dessine. Et on va dire à 90%, le storyboard sert pour le montage. Ou le montage sert pour le storyboard, voilà.
Ouais, j'en ai entendu parler de ton storyboard. C'est qui m'en a parlé? Oh, au polygoné, toi, il dit « Ouais, Nahir, il storyboard tout, c'est un fanat
!» Ça, c'est faté, ça, non? C'est faté, ouais. Je l'ai reconnu direct.
Tu me rends fou avec ces storyboards.
Ouais, franchement, c'est, on va dire, une sorte de colonne vertébrale. Je sais que bon, j'arrivais avec le storyboard, j'avais arrivé sur le tournage, je sais que je vais placer la caméra à gauche, à droite, je sais que je vais avoir un plan serré, un plan large, mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, rien dans l'inattendu qui ne soit secrètement attendu par toi. On peut arriver lors du tournage avec le storyboard, je me dis bon, allez, on va improviser le storyboard, on le jette et on ne fait plus du tout attention. Mais voilà, le montage est surtout dirigé par ce storyboard.
Ok.
D'ailleurs, okay. Restez à l'écoute parce que bientôt, on va avoir un événement avec une exposition justement... Des storyboards de Nahir.
Ah ouais?
Mm-hmm.
Excellent.
Suivez l'affaire sur internet, moi je vous dis.
C'est vrai, et j'ai oublié Rodrigue au montage, qui est le maître monteur, qui est maître caméraman, c'est le maître. Okay. C'est un pote, mais c'est avant tout. C'est comme il dit, c'est quoi la chanson? C'est mon ami, et c'est mon maître, c'est mon maître, et c'est mon ami. Mais voilà qui est. Voilà.
Serge Lama. Alice Donna, je pense, peut-être, pour les paroles, peut-être.
Ouais, bon. Et voilà, au montage qui m'a beaucoup appris et qui est question de montage, étalonnage, tout ce qui est technico-technique, comme dirait mon frère. Qui est. C'est fou, quoi.
Et tu montais au fur et à mesure ou tu montes à la fin d'avoir tourné?
Pour le premier volet, on a tourné tout à la fin, soit deux jours avant la projection. Monter un film deux jours avant la projection pour le premier volet, ouais. Et je me dis, bon, c'est trop de stress, trop de
boulot.
Sérieux, j'ai frôlé 20 000 crises cardiaques. Et pour le deuxième, chaque scène qu'on tournait, je la dérushais, je la montais, je la plaçais sur le banc de montage pour pouvoir optimiser en temps et pas se retrouver deux jours avant la projection à faire un montage, à faire un export et arriver en catastrophe à chaque projection comme d'habitude.
Sauf pour la dernière, j'espère.
Yes, 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 allez, c'est fini tout ça.
Et t'as pas l'air convaincu.
Et donc, il y aura une suite dans cette histoire ou dans cette équipe ou dans cette
dans l'équipe, oui, bien sûr. Moi, ouais. Vraiment, moi, je dis toujours que faire un film, c'est faire ce qu'on adore avec les gens qu'on aime. Ah, moi, je suis prêt jusqu'à tant pis, hein, à tourner avec mon équipe jusqu'à la mort. Mais l'aventure Toit du Monde, ouais, est terminée. C'était, comme tu m'avais dit une fois, c'était mon école de cinéma, le Toit du Monde. C'est là où j'ai appris le béaba. Bon, j'ai beaucoup à apprendre encore. Mais voilà, c'est là où j'ai fait mes premières classes, où j'ai appris mes premiers pas. Voilà, on a tous fait nos premiers pas, quoi. Et pour un prochain projet, prochainement,
t'as, t'as quelque chose qui bouillonne ou pas encore, non tu...
Oui, oui, il y a plusieurs petits projets qui bouillonnent dans la tête.
Ouais, ouais. Ça m'étonne pas de toi.
Il faut. Pourquoi tu me vois excité, c'est ça? Tu me vois tout à l'heure un peu de bouger.
Et il va pas y avoir de, d'autres projections à Marseille? Pour les gens de Marseille qui voudraient le voir, il y a des projections prévues?
Oui, alors il y en a une qui est prévue. On n'a pas encore de date fixe, donc je ne vais pas pouvoir annoncer de date en particulier, mais il faut suivre sur Facebook ou sur le site. Ce sera prochainement annoncé, je pense, peut-être d'ici un mois ou deux maximum, un mois et demi, je pense.
Peut-être rappeler le site.
Donc je rappelle le site pour ceux qui l'ont raté donc tout à l'heure, c'est letoitdumonde.fr ou sur le YouTube sur donc le YouTube pour ceux qui veulent regarder sur leur téléphone portable
l'épisode 1.
Et puis les Facebook pour suivre les infos.
On se relaxe encore avec un petit son, Nawir. Qu'est-ce qu'on balance là?
Oui, waouh, j'ai oublié ce que j'ai mis dans la playlist.
Bon, ça m'étonnerait dans ta cocotte minute là qui
boue à 400. La voix off du début qui est bien.
Pardon ?
La voix off du début.
Ah oui, voilà, merci beaucoup.
Oh là 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 là. La voix off.
C'est pas possible. Merci, merci.
Je sais pas combien elle commence, c'est 60.
Bah, c'est le début, tu peux mettre directement du début, il y a 10 secondes.
D'accord.
Avant que ça parte. Yes, yes, yes.
J'ai 2600 ans et quelques jours. Vous vous rappelez? Le regard. Ce petit miroir aux alouettes à travers lequel les hommes se renvoient leur œil pour œil. Les gens civilisés de bonne conscience adoptent plus facilement un chien trouvé dans la rue qu'un humain. Il faut dire que ça leur coûte moins cher en croquettes. Décidément, il y a une fossée entre nous.
Alors, Nawir.
Yes, c'est bon.
C'est bon.
Oui, oui.
Nawir qui faisait le...
Le chef d'orchestre.
Le chef d'orchestre.
Et je tiens à saluer le collègue Amine, qui a fait la musique. Un gros big up à toi.
Big up, big up.
La musique qu'on vient d'entendre, là.
Yes.
Elle est pas mal.
D'accord. Mais vous étiez une équipe de combien, alors? Qu'on sache au moins, même si on n'a pas dit beaucoup de choses sur le film, comme ça les gens pourront avoir la surprise de les voir. Mais l'équipe était de...
Tu veux parler d'équipe technique?
L'équipe en entière.
Nous sommes beaucoup, hein. Ah ouais, 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 mais il y a le noyau.
Production sans production.
C'est ça, grosse production, mais avec
petit moyen.
Avec une petite bourse dans la poche. Et surtout, il a été financé par le cœur, par la motivation, en fait, le film. Hein. C'est ça qui a. Et c'est vrai que le premier volet, là, on passe le quart d'heure, comment on dit, institutionnel. Le premier volet a été subventionné par très envie d'agir. Très envie d'agir, qui est la fusion entre le conseil général et envie d'agir, qui est un dispositif du ministère de la jeunesse et des sports.
C'est et le second par la poste, non?
Oh,
par le chômage de la poste?
Non, 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 par le salaire.
Si, j'ai vu écrit ANPE.
Donc, deuxième volet subventionné par Paul, c'est ça?
Non, par la poste, quand j'étais salarié, quand ils m'avaient pas encore banni. Parce qu'ils m'ont banni.
Ah, les salauds. Bon,
c'est pas grave, je me vengerai cinématographiquement parlant. Ah oui, ils vont voir à quel point je suis timbré.
Un film de propagande, alors.
Voilà.
Film de Nawir, en science-fiction, je suppose.
Non, le deuxième, il a été autoproduit et par tout le monde. Il a été financé par le cœur, par la motivation, la sueur, par
le temps,
les larmes, le stress.
Combien de temps de tournage sur le premier et le deuxième?
Ben, Le premier, bon, si
autant
pour...
De, autant que de toi.
Oh, oula, oh là là, yeah. Je n'ai plus rien à dire.
Ça fait beaucoup de... Il y a autant de moi que de toi.
Non, j'ai plus... De toi du monde.
Le premier, on a commencé le tournage en mars, officiellement mars 2011. Le vrai tournage, parce qu'on avait déjà tourné une séquence en 2010, mais le début du tournage du premier, mars 2011. Ouais.
Dans le premier essai, d'ailleurs, il a grillé comme un acteur. Oui, alors, big stand-up à Jam,
que j'ai cramé lors d'un tournage en plein cagnard. Mais le deuxième a duré un an et demi, on va dire, ouais, pour le deuxième volet. Un an et demi de tournage, montage, et un an, ouais, on va dire un an et demi aussi pour le premier, quoi. On a pas fait comme les grosses productions.
C'est des longues durées et des gros investissements. Hein.
Ouais, mais c'est ça, parce que, bon... Comparé aux grosses productions, ouais. Surtout les disponibilités, voilà, tout le monde travaille, à l'école, étudie, et voilà, pour caler un créneau pour tel comédien, pour telle scène, tel endroit, du jour, de la nuit, c'est relativement difficile. Si, voilà.
Justement, comment t'es arrivé à réunir un peu tout le monde à des moments, je veux dire...
Honnêtement, c'est un chantier quand même, hein. Franchement.
Bah ouais, j'imagine.
C'est quand même une grosse entreprise, surtout pour une fiction. Et surtout une fiction qui comporte plusieurs personnages. Organiser les tournages avec un tel, que l'autre soit dispo pour lui donner la réplique, tel créneau de temps, si je veux qu'on tourne en fin d'après-midi et tout, c'est un chantier colossal. Honnêtement, colossal, mais c'est plaisant. Hein. Je sais pas si vous voulez en parler.
Ah, moi, j'ai adoré les tournages, même si c'est vrai que des fois, on terminait, il était 3h du matin. On arrivait, il était tôt, que des fois on n'avait pas forcément eu le temps de manger ou etc. C'était pas si grave que ça, parce que sur le coup c'était un peu dur, mais on n'y pensait pas, on était dedans nous aussi. On était dans le film, on voulait, comme il disait si bien, reproduire ce qu'il y avait dans sa tête. Et donc du coup c'est à la fin qu'on y pense. Oh, il est 3h du matin, demain matin, il faut que j'aille travailler, comment
c'est
on
ça.
Le faire.
Faudra mais pousser voilà. La charrette.
Mais voilà, c'était un plaisir pour nous tous. D'ailleurs, comme il le disait, on le regrette tous que ce soit terminé. Enfin, on le regrette, on le regrette pas. On est heureux que ce soit terminé parce que ça veut dire que c'est le début de quelque chose quand même.
On a le baby blues.
Voilà, on a le baby blues.
Eh oui.
Choula, choula, choula.
Ok, bon, on va arriver malheureusement au terme, de, comme on dit toujours, de cette émission.
Yes.
Nous, ça a été super, super plaisant aussi de partager ce moment ensemble avec vous, de partager
c'est
cette
pareil,
énergie.
Pareil. Merci c'était beaucoup de nous avoir invités.
Cool. Merci pour l'accueil.
Merci.
Et ben, on vous réinvitera pour le volet numéro 12.
Dans un Marseille futuriste, ouais. Voilà. Ce sera ça.
Il y aura 15 tours, etc.
Ça 15 tours CMA, CGM qu'on détruira, tout ça. Là. Ça sera une grosse fiction, pire que Star Wars.
Est-ce qu'on pourra les détruire pour de vrai?
Ouais, t'inquiète.
Faut pas dire ça à la rantaine. Ouais, on va négocier.
J'assume,
ça.
Moi.
Bon, en tout cas, on a encore un petit peu de marge. Pour l'instant, il y en a une qui tient, mais en plus, il paraît qu'elle tient mal debout, donc elle risque de se casser la gueule, la tour.
Ah, wow.
Ah, malencontreusement.
Voilà, malencontreusement. Alors, mon cher Lo... ouais,
je vais mettre une petite musique. Qui, c'est quoi, là, la dernière musique que tu nous as donnée, Nawir?
C'est...
La vôtre?
On commence à sortir.
B.O. Jones.
Est-ce qu'on pourrait remettre le...
Tu veux remettre...
Ouais, est-ce qu'on pourrait.
Non, est-ce que... On voit thème hip-hop.
Ce que tu veux. Ce que
ouais,
tu veux.
Est-ce que... ouais, comment s'en sortir. Est-ce que, avant qu'on commence, que je dise quelques petits mots pour rapport
vas-y,
à cette musique
vas-y.
Ben, en fait, ce morceau-là, a été enregistré en 2007. J'avais pas encore l'idée de film. J'étais en fac d'histoire avec deux collègues. On s'est retrouvés entre rappeurs. Et on s'est dit, bon, ça serait bien de faire un morceau rap. Chacun a écrit son couplet. Et ce qui était drôle, lorsqu'on a terminé le premier volet, on s'est dit, bon, il faut un générique. Et j'avais pas trop pensé. Et Véro qui me dit, mais Nawir, le morceau que tu as fait il y a quelques années, comment s'en sortir, correspond bien à la thématique de ton film. Parce que dedans, vous trois, vous êtes en train d'exprimer votre ressenti sur la vie, sur voilà, tout ça. Et
tout ça.
La chanson est tombée à point nommé sur le film. Et voilà.
Et c'est celle qu'on va écouter.
Comment s'en sortir avec Momo. et Chemou.
C'est ça.
Ça.
Et puis ben voilà, donc ben merci beaucoup à vous d'être venus, d'avoir partagé ce petit moment avec nous, avec les auditeurs. L'émission sera mise en ligne dans quelques temps sur derive.tv. Vous pouvez écouter cette émission et toutes les émissions qu'il y a eu avant. Et puis nous, on se retrouve pour la prochaine émission, le premier lundi de juin qui sera, je ne sais pas, lundi 2, 3 ou 4 juin. On ne sait pas encore de quoi, pas loin de l'été, on ne sait pas encore de quoi on parlera. Et puis Banaoui, on te souhaite une bonne continuation, de faire encore d'autres films.
Ah, merci.
Je conseille aux gens d'aller voir ces deux premiers films et donc d'aller sur le site Facebook. C'est une belle expérience à vivre de les regarder. Bonne continuation à tout le monde. Bonne soirée.
Merci à vous. Bonne soirée à tous.
À bientôt.
Ouais, ciao.
Ciao. Ciao. C'est l'ami et le stylo. Je n'ai même plus les mots. Je ne sais ce qu'est l'amour. Depuis la vie m'a rendu fou. Je fais flirter avec la mort. Docteur, j'ai peur de descendre aux enfers, de me faire insulter par les anges et d'être châtié par Lucifer. Y'a trop de gens que j'ai haï, une petite pétasse qui m'a trahi. Docteur, je vous en supplie, je veux une place au paradis. Je l'ai appris hier, docteur Exo, c'est ma prière. Ma femme a préféré me quitter en se noyant dans une rivière. Vous voyez bien que la galère m'a mis les deux genoux à terre. Docteur, pardonnez-moi, j'ai décidé de me foutre en l'air. Comment s'en sortir quand la vie n'a pas d'issue? Voulant repartir car le monde nous a déçus. La terre tourne, tous bercés par la matrice. Un stylo, une feuille pour recoudre mes cicatrices. Mon armature, c'est ma musique. Jeune alarmiste, missionnaire d'un mouvement séparatiste. Je m'applique, dehors satire, mine satirique. Je suis pas le centre du monde mais son satellite. Je m'abrite sous une belle étoile car leur idéal est satanique. Mon texte me sert d'aérosol. Mon cœur est obscur, mon stylo est devenu spéléologue. Ma vie n'est pas rythmée par le carillon d'une horloge. J'aime pas qu'un temps s'accroche. La terre est notre mère, l'urbanisation est un parricide. Comment rester placide? Ma réflexion n'a pas le potentiel de Will Antide. Vous savez, j'ai peur, peur de trouver ma place. Hasardeux, j'ai peur qu'un jour se brise ma carapace. Peur, oui j'ai peur du sacrifice. Peur que ma mère ne comprenne plus son fils. Peur, peur que ma feuille devienne taride. Peur que mes larmes ne suffisent plus à cultiver ce que j'élucide. Est-ce que les frères m'écoutent quand je dénonce l'hégémonie du modèle ultra-libéral? Quand je dis que le système recule sur la prise en charge sociale? L'état-providence régresse, la violence devient banale. La délinquance augmente, mais l'intensification du travail de police est concomitant. Vous savez, la vie est un sport où il n'y a pas de mi-temps. Faut gagner la partie où on subira l'égoïsme de ce monde de consommation. Voilà, monsieur. Comment s'en sortir quand la vie n'a pas d'issue? Voulant repartir car le monde nous a déçus. La terre tourne, tous bercés par la matrice. Un stylo, une feuille pour recoudre mes cicatrices. Comment s'en sortir quand la vie n'a pas d'issue? Voulant repartir car le monde nous a déçus. La terre tourne, tous bercés par la matrice. Un stylo, une feuille pour recoudre mes cicatrices. Hey docteur, ça fait longtemps que j'attendais ce rendez-vous. Je pète les plans, ça tourne par an, je crois que je suis devenu fou. En effet, j'ai le mal de l'homme. Depuis quelques temps, je vis la lumière pour m'abriter dans l'ombre.